Bonjour, bienvenue ici dans cet auditorium que nous aimons beaucoup. Pour ce cycle que nous aimons aussi énormément, la littérature est-elle soluble dans la télévision, entendez-voir, qu'on a créé il y a quelques années maintenant avec l'Institut national de l'audiovisuel. Je remercie Oliver Rohe, ici présent, d'avoir accepté notre invitation. C'est une conversation que nous avions, lui et moi, et nous avions parlé de Heiner Müller. Et je me suis dit que j'allais proposer immédiatement de rechef à Oliver de travailler avec l'Institut national de l'audiovisuel. Ce qu'il fit, il en a fait un texte. Comme chaque fois, vous le savez, nous commandons un texte à un auteur pour la circonstance. Donc nous allons le découvrir, ce texte. Et il s'entretient avec Alain Nicolas, critique littéraire, comme vous le savez sans doute, à l'Humanité, que je remercie d'avoir accepté de faire parler à la fois Oliver Rohe et les images. Voilà, donc je, comme chaque fois, je laisse la parole à Oliver, ça va pas du tout, à Joël Oliver, qui va vous dire comment les choses se sont passées avec l'écrivain. Merci.
Bonjour. Alors, ça a été très, très simple et très rapide, d'ailleurs, puisque les images que nous pouvons proposer, les archives que nous pouvons proposer, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un cadre d'exploitation possible par l'INA pour vous montrer les documents. Il y a parfois des exceptions, d'ailleurs ce sera le cas au mois de décembre, mais là, ça n'était pas possible autrement. Donc il y a assez peu d'émissions consacrées à Heiner Müller. Il y a à partir de 89, d'ailleurs c'est l'année du document que vous allez voir ensuite, on parle de Heiner Müller dans le magazine Océanique à l'occasion justement de la venue de l'écrivain allemand, du dramaturge, à Avignon pour la présentation d'une de ses pièces. Et c'est pour ça que le magazine Océanique, Pierre-André Boutan, va rencontrer longuement Heiner Müller et ça va donner lieu à un film d'une trentaine de minutes, 32 minutes, qui est donc diffusé dans Océanique et qui est essentiellement composé de l'interview. Mais vous le verrez, puisque Oliver Rohe n'a pas choisi la totalité du film, il s'est concentré vraiment sur la rencontre, sur l'interview, mais le document et dans le document sont mêlés aux interviews des images d'archives et des extraits de pièces, mais aussi des lectures de textes par le comédien Gérard de Sarthe, mais que vous ne verrez pas là, où vous en apercevrez à un moment donné le visage très rapidement, puisque comme vous le savez, nous ne faisons pas de montage, donc les extraits sont parfois coupés tellement courts qu'on ne peut pas tout éliminer comme petite scorie de l'avant et après. Mais dire de Gérard de Sarthe que c'est une scorie, en plus, c'est pas très gentil, donc je retire le mot. Voilà, sinon ce sont des journaux télévisés lorsqu'il y a une actualité essentiellement théâtrale qui parle de Heiner Müller, mais on ne peut pas dire que la télévision française et en tout cas la télévision publique des chaînes France Télévisions, et je ne parle même pas de TF1, ait beaucoup parlé de Heiner Müller. Voilà, donc une vingtaine de minutes dans les choix faits par Oliver Rohe. Je m'en excuse d'avance, vous verrez, il y a une petite faute d'orthographe sur le générique, sur le carton au début, vous lirez magazine avec un S au lieu d'un Z, excusez-nous, mais parfois les techniciens, un petit peu dans l'urgence, parce que je dois dire que je détourne un peu une chaîne technique pour leur demander d'insérer ces cartons, donc on les excuse et puis c'est pas là qu'est l'essentiel, mais je voulais quand même vous le signaler et je vous souhaite un très très bon moment. Et puis je l'annonce déjà parce que hélas je ne pourrai pas rester avec vous aujourd'hui exceptionnellement, mais le mois prochain en décembre nous finirons l'année avec Charles Juliet qui parlera de James Hadji. Voilà, comme ça c'est fait.
Merci Joël, à toi pour ce travail que tu accomplis. Je sais que c'est toujours un plaisir pour les écrivains d'être amenés à travailler avec les équipes de l'INA. On commence directement par la projection. Vous savez, c'est variable. Donc parfois, il y a présentation de l'écrivain avant, parfois après, lecture du texte, pendant. Et là, on voit tout de suite le document.
Voilà, nous allons laisser résonner encore un peu les paroles d'Heiner Müller, tout en faisant une petite remarque sur le fait qu'une émission comme Océanique n'existe plus malheureusement aujourd'hui et rien de ce qu'on peut trouver dans le paysage audiovisuel français contemporain ne peut prétendre la remplacer. Bon, c'était une remarque, je dirais, voilà, qu'on était dans le pessimisme avec Heiner Müller. On va peut-être pas s'y plonger trop longtemps. Quelques mots pour présenter Oliver Roé. Bon, il est né en 1977. Oliver, 72, pardon. Oui, 72, je me relisais mal. En 1972, il a vécu 17 ans au Liban. Il est devenu journaliste puis romancier. En 2003, nous avons pu lire de lui Défaut d'origine aux éditions Alia, qui était un livre qui avait attiré beaucoup l'attention de certains critiques. Puis ça a été Terrain vague chez le même éditeur en 2005. Et son dernier roman, Un peuple en petit, aux éditions Gallimard. Entre-temps, il a été, comme j'ai dit, journaliste, un des fondateurs de la revue Inculte qui est devenue maintenant une maison d'édition et qui compte bon nombre d'auteurs qui ont fait leur chemin. Bon, on les connaît tous, citons Maëlys de Kerangal, Arnaud Bertina, Claro, et un temps François Bégodeau, voilà, donc c'était aussi une aventure au départ de laquelle se trouvait Oliver Roé. Son dernier livre qui a aussi pas mal attiré l'attention, c'est un texte sur Kalachnikov, l'inventeur du célèbre fusil d'assaut, donc qui est intitulé Ma dernière création est un piège à taupe. Et puis il faudrait pas oublier un livre sur David Bowie, Nous autres, aux éditions Naïves, enfin dans une collection qui n'existe plus et qui était vraiment qui regroupait des textes extrêmement intéressants d'écrivains sur des musiciens, des artistes. Et puis un travail collectif qui est paru en 2007 et qui s'appelait Une année en France, qui regroupait un certain nombre d'interventions d'écrivains sur la littérature, sur la situation du pays cette année-là. Et j'y pensais parce que ça consonne un peu, ça consonne pas mal même avec ce que nous dit Heiner Müller, qui a été saisi dans une plage historique extrêmement précise et très très limitée dans le temps, qui est le début de l'ouverture des frontières de certains pays du pacte de Varsovie vers l'Europe occidentale, c'était principalement la Hongrie puis la Pologne, et la chute du mur de Berlin qui est arrivée quelques semaines après. Mais laissons peut-être Oliver Roé nous donner lecture de son texte et nous reviendrons après sur ses choix et sur la façon dont il considère le travail d'Heiner Müller dans l'Europe et dans le monde aujourd'hui.
Bonjour. Je vais lire bêtement mon texte. D'abord, quelques remarques sur le document que l'on vient de regarder ensemble. Aujourd'hui, une telle émission n'aurait à l'évidence jamais eu lieu. Un type qui sirote son whisky et qui fume comme ça son bon gros cigare sur un plateau de télévision est une image impossible, prohibée par la loi. Ce gros cigare est d'une certaine manière moins problématique. Ces grosses lunettes en écailles sont pourtant les deux piliers principaux, les murs porteurs, si vous voulez, de la représentation publique de Heiner Müller. Sans ses attributs désormais célèbres, le cigare et les lunettes, Müller serait méconnaissable, et pour nous et pour lui-même. Pire encore, sa parole n'aurait jamais ainsi disposé des outils matériels et du rituel nécessaire à son déploiement. Tenir quelque chose dans les doigts, aspirer, retenir la fumée en bouche, l'expulser dans les airs en évitant de prendre soi-même la fumée dans les yeux, Ces gestes répétitifs font partie de la mécanique intellectuelle de Müller, participent de la gestation mentale de son discours. Il faut ici également ajouter, dans le dispositif scénique de cette émission, la ligne de fuite qu'incarne ce stylo avec lequel il trace des figures sur son cahier, en attendant ou pendant sa prise de parole. Dernière obscénité remarquable, qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, mais plutôt sous le coup de la loi des audiences et du marché, donner longuement la parole à un homme de théâtre allemand dans sa propre langue, un Allemand de l'Est par-dessus le marché, un communiste réputé pour ses textes modernes et difficiles, qui parle en toute sérénité d'énergie criminelle de l'écriture et d'attaque contre la communauté des spectateurs. Loin d'être secondaire, d'un rang esthétique et d'un intérêt inférieur à ceux d'un essai, l'entretien est le genre privilégié par Müller pour commenter son œuvre et la défendre par ailleurs des attaques et des tentatives de récupération politique dont elle avait été l'objet. Mais il s'agit là en vérité de bien plus qu'un plaidoyer ou d'un commentaire savant. Les nombreux entretiens qu'il a pu accorder à la presse écrite, à la radio et à la télévision, parus et retranscrits depuis en volume, à propos de son propre travail d'écrivain, mais aussi de sujets bien plus libres comme la politique, l'économie, l'histoire de l'Europe ou la mythologie grecque, ces entretiens donc représentent un pan essentiel de l'œuvre de Müller, au même titre que les pièces de théâtre, les poèmes et la prose, parce qu'il y déploie, certes avec des nuances importantes, une puissance rhétorique, une agilité intellectuelle, une férocité et un sens de la provocation à peu près analogue. Et parce que cet exercice de l'entretien constitue en soi une réplique en miniature et improvisée de la forme dramatique elle-même, c'est-à-dire du dialogue intersubjectif, qui prendrait selon la qualité de son interlocuteur, selon l'enjeu et l'humeur du moment, qui prendrait l'aspect de la conversation amicale ou de la joute oratoire, de l'antagonisme hostile et parfois même du procès, de l'esquive, du détour et de la digression. Malheureusement, le document qu'on vient de voir ne valide pas complètement ce que je viens de dire, parce qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire dans son discours pour autoriser pour favoriser la traduction. Donc il y a une espèce de courtoisie, une contrainte de courtoisie, si vous voulez. Mais si vous lisez ces volumes d'entretien, le flot de sa parole et l'espèce de confrontation apparaît tout de suite. Cette façon de pratiquer l'affrontement, de répondre à côté ou de heurter par des formules lapidaires, de frustrer les attentes de l'autre ou au contraire de les combler, de montrer son irritation, de faire preuve d'ironie et de méchanceté, d'être courtois ou de déplacer les thèmes imposés, bref, de perturber et de casser souvent le cadre d'un entretien ordinaire, est emblématique en quelque sorte des méthodes dramaturgiques de Heiner Müller. C'est-à-dire la mise en pièce, le dépeçage et, comme il le dit lui-même dans le reportage, la réduction au squelette, qui sont les conditions d'une recomposition continuelle. Rien n'est en effet plus fondamental à l'articulation et à l'expression formelle de son théâtre que les idées de conflit, de division et de guerre. Non pas la guerre en tant que phénomène historique isolé, circonscrit dans l'espace et dans le temps, que l'on pourrait ainsi réduire à ses épisodes armés, à ses grandes batailles et à ses carnages, mais la guerre comme structure du pouvoir et état permanent de la société, dans tous ses lieux et dans toutes ses strates, un état inhérent au processus historique et qui se manifeste sous les modalités de la violence et de la rémission. Des rémissions plus ou moins brèves qui sont comme des préparatifs aux prochaines irruptions de violence, une manière d'en redéfinir les motifs et les causes, et des violences qui sont en retour comme des préludes plus ou moins brefs à l'apaisement. Si bien que s'imprégnant l'une de l'autre, violence et pacification se révèlent concomitantes plutôt que purement cycliques. Cette guerre comme état est indifférente aux frontières théoriques entre le domaine civil et militaire, entre le public, lieu supposé du politique, et le privé, sphère sanctuarisée de l'intime, entre les catégories morales du bien et du mal. Si la guerre est partout et tout le temps, alors l'ennemi est changeant, mobile. Il n'y a dans les pièces de Müller aucune situation acquise, pas de place assignée, de territoire stable et enraciné. Les positions sont toutes susceptibles à tout moment d'être attaquées et renversées. Tout ordre est immédiatement ébranlé par le surgissement d'un désordre intérieur, transfiguré ensuite en un ordre aussitôt contesté à son tour. Il n'y a pas non plus d'opposition irréversible, propre à un protagoniste et pas à l'autre, même et même surtout quand ces grandes oppositions structurantes sont le moteur principal de la pièce. Malgré sa radicalité inaugurale, chacun tend à fléchir au fil de la construction dramatique et à adopter parfois la position et les méthodes de l'autre, de l'adversaire, de sorte que les conflits demeurent sans résolution, sans dénouement définitif. Exemplairement, pour sauver la révolution prolétarienne en Allemagne de l'Est, il a fallu que, l'État des ouvriers et des paysans écrase le soulèvement prolétarien de 1953. Le soldat tue en masse pour faire advenir la révolution avant de devenir lui-même l'ennemi de la révolution. Le révolutionnaire russe, qui prône l'abolition de la propriété privée, se comporte en propriétaire avec sa femme. Celui que les nazis ont torturé finit par porter l'uniforme de ses tortionnaires. Le révolutionnaire français missionné à la Jamaïque pour abolir l'esclavage doit ensuite se charger de sa restauration. L'ancien résistant communiste emprisonné par les nazis contraint son élève ouvrier de signer son autocritique. Des soldats unifiés par l'existence d'un ennemi commun absolu dévorent leur camarade le plus faible. Ophélie, la suicidée par amour, et aussi Electre, la vengeresse. Valmont joue le rôle de Merteuil avant de mourir en putain, et Merteuil joue le rôle de Cécile de Volanges avant d'empoisonner Valmont et de se retrouver seul avec, je cite, « cancer mon amour ». Si la figure de l'ennemi disparaissait, s'il venait à manquer, alors l'ennemi siégerait en soi, jaillirait dans le miroir. À l'image de la société, de la famille et du couple amoureux, le sujet chez Heiner Müller est lui-même dévasté par la division, qui, partant, le met en mouvement, le contraint à abandonner des morceaux de lui-même et à produire des identités nouvelles, qui le fait, en d'autres termes, changer et devenir constamment étranger à lui-même. Parti combattre la bête, Héraclès comprend peu à peu que l'ennemi n'est pas au bout de la forêt, mais la forêt elle-même. Les arbres qui le cernent et le sol sous ses pieds. La bête qu'il traque, c'est l'environnement même de la vie, le lieu de son séjour. Supprimer la bête signifierait donc se supprimer soi-même. Lorsqu'un officier de la route des chars, c'est une des dernières pièces de Müller, doit décider de l'exécution d'un coupable ou de la dégradation d'un médecin militaire sous ses ordres, la structure même de son être pensant, de son monologue, se fragmente pour donner naissance à quelque chose comme un conciliabule intérieur, où s'affrontent simultanément deux argumentations antagonistes, l'une en faveur de la grâce et l'autre de l'exécution. Et même si, à force d'abandon et de division, l'homme venait à se dissoudre complètement dans son bureau, accomplissant ainsi le rêve de la bureaucratie totalitaire, comme c'est le cas dans la pièce Les Centaures, un ver ferait alors son apparition dans le bois. Cette vision du monde, fondée sur sa propre expérience de l'histoire, conduit Heiner Müller à adopter des stratégies dramaturgiques qui inscrivent l'idée de conflit perpétuel dans la forme toujours renouvelée de son théâtre, lequel mêle en même temps le dialogue, le monologue, le fragment, le récit, la prose, le poème. Héraclès, ou l'hydre, que j'ai évoqué tout à l'heure, est un morceau de prose narrative de plusieurs pages insérées sans avertissement ni transition après des dialogues dans la pièce Ciment, adaptée d'un roman russe de 1921 qui traite des premières trahisons de la révolution d'octobre. Il en va de même de La Mission, autre pièce majeure sur le thème de la révolution française et de l'abolition de l'esclavage, au milieu de laquelle se dresse le récit quasi onirique d'un homme dans l'ascenseur qui finit au Pérou. Ces embardés et ces montages déroutants n'ont rien d'une coquetterie postmoderne, parce qu'ils produisent, par l'effet de télescopage, de collisions fragmentaires, des significations et des relations de sens inédites, permettent de rapprocher et d'éclairer l'une par l'autre des époques historiques, des lieux et des situations a priori éloignées et incompatibles. C'est précisément cet assemblage sophistiqué d'éléments épars, indépendants presque les uns des autres, souvent impurs et impropres au mélange, c'est cette confrontation généralisée des matériaux et des formes esthétiques qui explique la richesse et la complexité prodigieuse du théâtre de Müller. Merci.
Merci Olivier Rouet. Alors la première question peut-être la plus simple à poser en tout cas, sinon à répondre, c'est quand on vous a demandé de travailler sur un écrivain avec Lina, dans le fond de Lina, est-ce que la figure d'Heiner Müller s'est imposée tout de suite et comment, quoi qu'il en soit, en êtes-vous arrivé à proposer justement cette vision d'Heiner Müller?
C'est un auteur que j'ai commencé à lire l'été dernier, l'été 2012. Et j'ai très vite lu des entretiens. Et en fait, il y a 4 volumes d'entretiens disponibles, en France en tout cas. Il y en a plus, je crois, en Allemagne. Donc j'ai commencé par lire les entretiens et assez naturellement, je me suis demandé s'il y avait des extraits disponibles sur Internet et j'en ai trouvé. Et donc, lorsque j'ai rencontré Sylvie Goudbaron, je lui ai simplement parlé de Heiner Müller que j'étais en train de lire à l'époque et je lui ai cité les extraits que j'avais pu voir sur Internet et voilà, la rencontre a été décidée à ce moment-là.
Alors vous avez dans l'émission océanique telle qu'elle était diffusée, il y avait des extraits de lus par Gérard de Sarre dont on voit un peu des bon, non, pas des scories mais enfin voilà des espèces de traces comme ça qui de rémanence dans le montage et vous avez resserré autour de la figure du dramaturge et en éliminant un peu tout ce qui pouvait être illustratif sauf peut-être le bref extrait de la mission, la pièce qu'il était en train de mettre en scène à Avignon à ce moment-là et qui vient voilà, montrer dans les faits ce qu'il était en train de préparer.
Oui, en fait, l'émission dure à peu près une heure, donc j'ai coupé effectivement toutes les plages de lecture. Je crois que le comédien lisait Hamlet Machine, si je ne me trompe, qui venait entrecouper l'entretien. Pour deux raisons, c'est d'une part, je trouvais les lectures en elles-mêmes... Le théâtre filmé, c'est une chose abominable. Donc c'est très compliqué de pouvoir apprécier un texte lu dans ces conditions-là. Donc je trouvais ça pas très beau à regarder. Et surtout, ça ralentissait considérablement le flux de l'entretien qui était déjà haché par l'obligation de traduire. Donc je voulais essayer de monter le reportage pour donner l'impression de fluidité, la plus grande impression de fluidité possible, en fait.
Alors, on voit bien la lecture de votre texte, ce qui peut-être vous a intéressé dans Heiner Müller. Bon, le côté, cette espèce de fécondité de la contradiction qu'il met en œuvre avec... en l'écoutant, on comprend bien que la contradiction, c'est pas un truc qui marche tout seul. Il faut la mettre au jour, il faut la faire agir pour que des choses se déclenchent. C'est-à-dire qu'il a quand même besoin de il y a besoin d'un travail sur la langue, sur la force de l'image théâtrale, sur la force du texte pour que une action se fasse. Il y a un côté extrêmement il y a une puissance, mais qui a besoin d'être mise en marche. Est-ce que c'est ça qui vous paraît, à vous, en tant qu'écrivain, exemplaire, en tout cas ?
Ce qui me paraît vraiment exemplaire, c'est presque deux choses qui se complètent, en fait. La première, c'est la diversité des matériaux, qui autorise précisément le principe de contradiction. C'est-à-dire que Müller va aller piocher aussi bien dans Sénèque que dans Shakespeare ou dans des romans contemporains. C'est-à-dire que son spectre est extrêmement large. Il va même piocher chez un auteur qui s'appelle Anna Segers, qui a écrit la nouvelle à partir de laquelle est tirée la pièce La Mission, dont on a vu les extraits, alors même que Anna Segers faisait partie du comité d'écrivains qui a exclu Heiner Müller au tout début des années 60 et qui a donc contribué à sa censure pendant plus de 10 ans. Donc c'est dire qu'il n'est pas rancunier, quoi. Donc il a une diversité des matériaux qui est assez prodigieuse et évidemment il pioche beaucoup beaucoup dans sa propre expérience puisqu'il a vécu dans sa chair, pour ainsi dire, les expériences totalitaires nazies, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis l'expérience de la dictature communiste. Donc c'est chargé comme expérience de vie. Donc tout ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont il met ça en forme. Par exemple, dans la pièce La Mission, comme je le dis dans le texte, il apparaît à un moment une espèce de narration, de récit narratif extrêmement bizarre sur un type dans un ascenseur qui doit monter peut-être au dernier étage pour rencontrer le directeur qui doit lui donner les termes de sa mission. Et de fil en aiguille, il finit par sortir de l'ascenseur, il se retrouve au Pérou. Enfin, c'est vraiment construit comme dans un rêve, sans aucun lien logique, pas de cause, pas de conséquence, ni rien. Et on se demande en fait ce que ça fout là-dedans. En fait. Müller explique la raison pour laquelle il a intégré ce passage-là, simplement par le fait que le dialogue qu'il écrivait juste avant l'ennuyait. C'est-à-dire que il savait déjà où ça allait, ça l'emmerdait un petit peu de continuer à l'écrire, donc il s'est dit, il faut que je casse la mécanique que j'ai moi-même mis en place, et c'est comme ça qu'il produit ce texte-là et qu'il décide de l'insérer. Et donc cette confrontation entre le dialogue qui précède et le récit quasi onirique qui va tomber juste après, de cette confrontation naît une réserve de sens ou de signification qui est complètement imprévue. Et c'est ce qui fait la complexité en fait de son travail. C'est-à-dire que il y a une phrase de lui qui est très très belle et qui, je pense, explique très bien ce qu'il a voulu faire. Je la cite de mémoire. Il dit en gros, plus les parties de la construction s'affirment de façon indépendante, plus l'œuvre commune est complexe.
Oui, d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est que ces questions de ça pourrait presque s'appliquer aux conceptions politiques, à la vision du statut de la politique dans l'œuvre d'art et dans la culture. C'est-à-dire que bon, il a une réponse qui est extrêmement franche. Et qui a probablement, enfin, l'impression que son interlocuteur est un peu médusé quand il lui répond, bon, la question un peu bateau, oui, vous utilisez les tragédies grecques et Shakespeare parce que pour vous c'est une façon de parler de de la situation politique du pays, et il lui refuse cette conception très plate. De la contrebande politique qu'il peut y avoir effectivement dans Hamlet ou dans
c'est pas une métaphore en fait. C'est-à-dire que le recours à Hamlet ou à Médée n'est pas une métaphore.
Voilà, ça se place sur un autre plan. D'ailleurs, il y revient assez frontalement à la fin quand il dit
c'est la surface. En fait.
C'est voilà, je prends ça ouais, quand le fond est à la surface, là on est dans la poésie. Et, voilà. Et de même quand il dit j'avais besoin d'Hamlet était utile pour le pays à ce moment-là, c'est-à-dire non pas en tant que cache-sexe d'une pensée politique réprimée, mais comme véritablement réflexion sur la puissance du théâtre.
En fait, c'est ce qui rend en fait c'est ce qui donne au classique, c'est ce qui en fait donne aux classiques une forme d'actualité, c'est-à-dire que ça les sort de la réification dans laquelle on peut les maintenir. Dire que Hamlet est très utile pour interpréter la situation politique de l'Allemagne de l'Est en 89, c'est pas une facilité dans le discours. Il l'explique en disant que la figure de Hamlet est précisément une figure du tiraillement, que il est à la fois le témoin d'une époque qui s'effondre et de témoin de la naissance d'une époque dont il n'arrive pas très bien à définir les contours. Donc, et ce qui était exactement la situation de l'Allemagne de l'Est à ce moment-là. Donc, il n'y a vraiment pas de signification cachée, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il dit.
C'est un penseur profane.
Et ce qu'il dit, c'est que tout ce qui peut être dit clairement, on va le dire clairement. Voilà, il ne s'agit pas d'aller jouer sur des niveaux d'interprétation. Et en même temps, il y a des connexions qui sont assez impressionnantes avec la conception même du politique. Bon, il y a cette question là et puis il y a aussi le fait que il se trouve dans un moment où il y a une possibilité politique inédite en Allemagne, et où on comprend bien qu'il se sent très efficace dans la mesure où il n'est pas parti. Il a pu utiliser tous ses moyens parce qu'il y avait la censure et que cela, d'une certaine façon, amenait à fourbir des armes. Et en même temps, on comprend bien qu'il n'a pas les réponses. Quoi. C'est ça qui est intéressant, mais que ça ne l'empêche pas d'avancer.
En fait, ce qui est très beau dans sa... presque désespéré dans sa position politique de façon générale par rapport à la RDA, c'est que il fait partie des rares intellectuels qui ont été plus ou moins, enfin en tout cas au début, maltraités par le régime, puisque son travail a été censuré pendant de longues années, qui avait une conscience assez aiguë du caractère stalinien du régime, qui en même temps bénéficiait au fil des années d'une position privilégiée, puisqu'il avait le droit de voyager, donc il aurait pu partir à l'Ouest, mais qui a décidé de rester fidèle, non pas à l'État de l'Allemagne de l'Est, mais à la pulsion révolutionnaire ou au rêve de la révolution à laquelle il a cru lui-même en 1949. Et donc cette espèce de fidélité critique, on pourrait l'appeler ça comme ça, est une position qui me plaît beaucoup, sachant qu'en plus le trajet de la position révolutionnaire vers la droite est si commun en fait. Donc même dans ce trajet-là, il est à contre-courant.
Oui, c'est d'ailleurs un peu le trajet de Christa Wolf, par exemple. Sauf qu'elle, justement, très précisément, elle fait le contraire du point de vue esthétique, c'est-à-dire qu'elle va se servir des drames, de la mythologie, comme métaphore dans Médée, par exemple. Voilà, c'est particulièrement, particulièrement clair. Alors, bon, parce qu'il y a aussi la question féminine qui est posée et que Anna Müller ne pose pas. Mais ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est quand on regarde, du coup, en regardant ça, moi je me suis référé à Césaire, et la démarche est complètement différente. C'est-à-dire que le pessimisme est foncier chez Einar Müller. Il n'y a pas d'espoir individuel, mais c'est le côté paradoxal de la citation de Ernst Bloch qu'il donne à la fin.
En fait, il n'est pas pessimiste, il répond en disant que l'optimisme, c'est juste un manque d'information. Donc, ce n'est pas une position morale, je crois. Et puis, la citation de Bloch est vraiment très très belle parce que... ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le communisme n'offre pas d'espoir à l'individu, mais il offre un espoir collectif. Donc, c'est pas une entreprise de désillusion c'est pas une absence d'utopie, le communisme. C'est une utopie collective. Et c'est à ça qu'il a cru lui-même, je pense.
Oui, oui, oui. Oui, mais bon, Césaire, par exemple, revient sur la validité même de l'utopie, mais il y a chez lui une espèce de capacité, de foi en l'individu, comme pouvant être éventuellement, dans la mesure où il peut changer dans un sens, il peut aussi changer dans l'autre. Voilà. Donc ce qui était bon.
Mais Müller, ça, il le postule aussi, c'est-à-dire que il ne croit pas à l'avènement d'un homme nouveau, ce qui a été le pan léniniste et stalinien de la révolution marxiste, disons. Mais il croit à la capacité, en fait, il ne croit pas, il le démontre dans chacune de ses pièces, à la capacité de changement de l'être humain. C'est-à-dire que le monde change et il faut que l'homme change en même temps que lui. Et tout dépend de la capacité de se synchroniser, en fait. À partir du moment où l'état de l'Allemagne de l'Est s'est figé et a cessé de bouger, c'est à ce moment-là que la trahison de la révolution a commencé.
Alors, en regardant cet entretien, vous nous avez dit que vous avez lu relativement récemment ce Einar Müller, donc après Un peuple en petit. Donc, et moi, j'ai été tenté, ignorant ce fait-là, d'y voir des connexions, peut-être a posteriori. Un peuple en petit travaillait sous trois registres différents sur la notion d'individu et de collectivité. Bon, si on peut résumer très sommairement le, un des propos du livre. Est-ce que vous y voyez des connexions, vous y reconnaissez des choses que vous avez pu éventuellement chercher ou réussir à mettre dans votre livre?
En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai été vraiment très frappé en lisant les pièces, les entretiens, ensuite en lisant des essais sur Rainer Müller, en tombant notamment sur cette phrase sur la complexité que j'ai citée tout à l'heure, à quel point en fait il y avait une familiarité, disons, esthétique ou dans la recherche formelle. Et c'est pas du tout pour des raisons de vanité narcissique, mais c'est parce qu'en fait on traite du même matériau. Donc à partir du moment où vous postulez l'idée d'une guerre perpétuelle ou d'un conflit généralisé, c'est très compliqué d'écrire des livres qui ne soient pas fragmentaires ou qui ne mettent pas en œuvre, qui ne reproduisent pas cette idée de conflit à l'intérieur même de leur forme. Donc ça m'a presque consolidé dans ce que j'essayais de faire moi-même en fait.
Alors il y a une question qui est posée, c'est que bon, Rainer Müller est quand même avant tout connu pour être un auteur de théâtre. Est-ce que c'est une forme d'écriture qui vous tente ou que vous avez essayé de pratiquer ou que vous avez pratiqué?
Elle me tente, mais dans Un peuple en petit que vous avez cité, il y avait déjà un personnage d'acteur.
Oui.
Donc la question du
théâtre. Et ça se passait en Allemagne aussi.
La question du théâtre me taraude depuis un moment. J'espère pouvoir un jour écrire pour le théâtre, parce que plus j'en lis, parce que j'en lis beaucoup en ce moment, je me rends compte que le théâtre a une capacité d'incarnation quasi immédiate, alors que le roman doit vraiment ramer pour arriver au même niveau. C'est-à-dire que il suffit qu'un acteur monte sur scène pour dire je suis au milieu d'une forêt et il y a une armée ennemie en face, pour tout de suite, pour que ça prenne une réalité immédiate. Alors que dans le roman, il faut plusieurs pages déjà pour dessiner la forêt, la rendre palpable, matérielle, etc. Donc il y a une rapidité dans le théâtre, une force d'incarnation qui me séduit énormément.
Et donc ça vous amène à travailler vraiment déjà délibérément dans ce sens-là?
J'ai des idées, mais rien de concret pour le moment. C'est compliqué, hein. Compliqué le théâtre.
Voilà, c'est compliqué. Alors peut-être qu'on va suspendre un moment notre échange là-dessus, parce que bon, je suppose aussi que vous pouvez avoir des questions à poser à Oliver Roé sur ses relations à Rainer Müller ou sur son travail personnel, passé ou à venir. Donc on peut peut-être faire un... Voilà, vous donner la parole.
Vous venez de dire que vous lisiez beaucoup de théâtre actuellement, d'auteurs de théâtre, je pense. Pourriez-vous nous dire ce qui vous intéresse particulièrement actuellement?
D'auteurs contemporains, vous voulez
dire? D'auteurs contemporains.
En fait, malheureusement, j'ai un côté très méthodique, c'est-à-dire que je commence par le début. Donc là, j'ai lu quand même pas mal de grec, j'ai lu Shakespeare l'année dernière. Là, dans les contemporains, j'aime bien Sarah Kane, Edouard Bond. Ce que je connais en fait, malheureusement je ne pourrais pas vous en citer beaucoup plus. Rainer Müller m'a pris beaucoup de temps. Hein. Peter Weiss aussi, c'est très bien.
Dans l'entretien, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Dans l'entretien, Rainer Müller dit, si je ne m'abuse, j'ai noté ça, une chose dite qu'on ne peut pas reprendre dans la parole théâtrale. Une fois qu'elle est posée, elle est. Alain Nicolas t'a fait dire que cette proximité entre son œuvre et la tienne pouvait relever de la forme, tu le dis. Moi, quand j'entends ça de sa bouche, je me dis aussi que probablement, te connaissant un petit peu, il y a autre chose qui travaille dans ses propos et dans ses textes, qui concerne aussi une société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu commences ton texte par le fait qu'aujourd'hui, une telle chose est impensable. Cette exigence intellectuelle qui est la sienne, qui est la tienne, se rejoignent aussi probablement au-delà de la forme, purement dans le contenu des propos. Et moi, évidemment, quand je l'entends dire une chose dite qu'on ne peut pas reprendre, je pense à un phénomène courant dont on a parlé déjà, de spectacularisation, qui nous importe énormément ici avec le travail qu'on conduit à la Maison des Écrivains. Qu'est-ce que c'est que cette parole dite une fois qui ne peut pas être reproduite? Alors évidemment très paradoxalement dans le théâtre, puisqu'il est quand même question d'interprétation et de reproduction. Voilà, moi tout ça m'intéresse aussi.
Justement, il y a deux choses quand ils disent, quand Müller défend l'idée de théâtre, contrairement à l'idée de, enfin, où il dit que le théâtre n'est pas un fournisseur d'informations, en fait, parce que la télévision existe déjà. C'est parce que, en fait, l'expérience théâtrale qu'il aime construire est plutôt de l'ordre de la noyade. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est produire un ensemble ou des blocs de textes, de dialogues, qui, dans leur confrontation, en fait, arrivent tous en même temps, presque, au spectateur. Et donc, en fait, il est dans une espèce il est désorienté. Il faut qu'il choisisse, qu'il se raccroche à la première chose à laquelle il comprend, qu'il saisit, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. C'est à la capacité de la parole à installer un rapport de violence, en fait. L'autre chose, c'est que je pense que le théâtre, même si on peut jouer la même pièce tous les soirs quand on fait partie d'une troupe ou d'un ensemble, la parole dite sur scène conserve malgré tout une espèce d'aura artistique, pour parler comme Benjamin. C'est-à-dire que ça n'est pas une parole écrite, ça n'est pas une parole filmée ou diffusée à la radio, c'est une parole qu'on a entendu avec son corps, donc elle imprime d'une manière assez différente. Et j'aime bien l'idée que bon, c'est normal, il est lui-même dramaturge, mais cette croyance en fait dans les puissances de l'écriture théâtrale m'intéresse beaucoup en fait. Si on n'a pas cette foi-là, on fait rien en fait.
Alors moi je reprends justement la balle au bond là-dessus, parce qu'à un moment il dit, avec une espèce de candeur extrêmement provocatrice, que très peu de gens, bon, on parle de sa parole, hein, très peu de gens croient qu'il dit vraiment, qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Voilà. Et il y a un côté, bon, d'une part, ce jeu avec la vérité qu'il peut y avoir dans le cadre d'une censure généralisée, qui était le cas donc à l'époque, et en même temps, il y a le fait qu'il est, d'une certaine façon, il arrive sans armes, quoi, contrairement à ce qu'on pense.
En fait, il y a quand même par moment, il est malhonnête, hein, faut le reconnaître, mais ou de mauvaise foi en tout cas. Mais c'est vrai que il dit des choses tellement énormes parfois. Quand il parle de l'écriture comme je le cite ici, d'énergie criminelle de l'écriture, où il compare le travail de l'écrivain au travail de l'assassin. Je crois que ça ne figure pas dans le.
Non.
Pourtant, c'était dans le. Enfin bref, c'est dans le même document. À un moment. Müller dit que pour pouvoir dormir, il faut qu'il écrive, que c'est un exercice obligatoire pour le préparer au sommeil. Et il dit en fait que c'est comme le travail de l'assassin. C'est-à-dire que l'assassin va tuer dans la journée et le soir, il va rentrer chez lui pour dormir. C'est une provocation énorme de dire ça. Or, je pense qu'il est à la fois conscient de l'énormité de ce qu'il dit et à la fois... dérouté par le fait qu'on puisse ne pas le prendre au sérieux, c'est-à-dire de se dire mais non, vous ne pensez pas ce que vous dites. Il joue lui-même avec ça, je trouve. C'est
oui,
ça qui est intéressant.
Peut-être, est-ce que c'est aussi justement une façon de parler de cette dictature qui était très particulière quand même en RDA. Bon, il y avait d'une part un peu des précurseurs de ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui avec la NSA. Bon, la Stasi était comme des enfants de cœur à côté. Mais en même temps, l'idée, c'est que tout étant... voilà, on ne peut pas... il n'y a pas de secret. On ne peut rien se dire en secret. Donc, on peut jouer avec le en feignant de masquer ce qu'on dit. Voilà, il y a cet aspect. Et en même temps, c'est un geste de poète de dire ça.
C'est là où on rejoint ce qu'il dit sur l'épiderme, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole... Il n'y a rien en dessous de la surface. Donc c'est quelque chose qui déroute le pouvoir lui-même. C'est-à-dire que si vous dites, ce que vous dites n'a pas de signification cachée, la surveillance n'a aucun intérêt, en fait. Puisque tout est à la surface et déjà exhibé. Et là, c'est là où ça constitue une contrainte quasi esthétique ou formelle. Ça l'oblige, en fait, à avoir une parole transparente. C'est là où il parle de pression de l'existence, de l'expérience qui mène la langue vers la poésie.
Oui, voilà, c'est une sorte d'ironie, ironie dans l'ironie, quoi, en fait. Bon, mais alors, je ne vais pas remonopoliser les questions, c'est toujours à vous.
Je crois que nous sommes invités à méditer tout cela profondément. Et en ce sens, je vous remercie tous les deux infiniment. On a toujours besoin de réfléchir un petit peu plus et d'être, sinon informé, orienté comme cela. Merci beaucoup à tous.
Je vais juste rappeler les livres d'Oliver Roé. Donc, c'était Défaut d'origine et Terrain vague chez Alien. Je suppose que c'est toujours disponible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Un peuple en petit chez Gallimard l'est toujours. Ainsi que ma prochaine création est Un piège à taupe. Donc, la vie de Kalachnikov par Oliver Roé chez Inculte. C'était paru il y a 2 ans.
L'an dernier.
Oui, en 2012, oui. Voilà, eh bien, merci.
Merci beaucoup. Noël Olivier a annoncé la prochaine séance, je vais faire comme Eddie Mitchell, pour Lina, pour le cycle, mais on se retrouve aussi la semaine prochaine, 1913-2013, on va fêter la prose du Transsibérien, avec des écrivains, évidemment, qui vont lire Sandra Ars. Yves Boudier a pensé à cela et c'est une excellente idée, Monsieur le Président. Donc on sera là la semaine prochaine pour vous entendre. Et puis, on aime suivre les auteurs et franchement, lisez Oliver Roé si vous ne l'avez encore fait. C'est important. Merci.